Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour, ou bien de découvrir d'autres écrits de l'auteur choisi, et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour chers auditeurs, avec l'été nous vous faisons redécouvrir Dino Buzzati, je dis redécouvrir parce que Catherine, vous avez lu deux nouvelles en octobre 2020, si vous vous en souvenez et si vous écoutez l'émission régulièrement. Ces émissions d'ailleurs sont toujours disponibles à la réécoute sur le site de Studio Zef. Hervé et Catherine ont pioché dans Le Cas, une dizaine de nouvelles que nous vous reproposons jusqu'à la fin août. Aujourd'hui, La Création, avec un regard particulier sur l'homme, Anniversaire et Les Bosses dans le Jardin.
La création. Le Tout-Puissant avait déjà construit l'univers, disposant avec une irrégularité fantaisiste les étoiles, les nébuleuses, les planètes, les comètes, et il était en train de contempler ce spectacle avec une certaine complaisance quand un des innombrables ingénieurs projeteurs à qui il avait confié la réalisation de son grand projet s'approcha d'un air très affairé. C'était l'esprit Odnon, un des plus intelligents et des plus dynamiques de la nouvelle vague des anges. N'allez surtout pas penser qu'il avait des ailes et une tunique blanche. Les ailes et la tunique sont une invention des peintres de l'ancien temps qui trouvaient que c'était bien pratique sur le plan décoratif. « Tu désires quelque chose ?» lui demanda le créateur avec bienveillance. « Oui, seigneur, répondit l'esprit architecte. Avant que tu n'apposes le mot fin à ton œuvre merveilleuse et que tu ne lui donnes ta bénédiction, je voudrais te faire voir un petit projet auquel nous avons pensé avec quelques jeunes collègues. Oh, quelque chose de très secondaire, une vétille comparée à tout le reste. Un détail, mais qui nous a quand même semblé intéressant. » Et d'un porte-document qu'il portait à la main, il tire une feuille où était dessinée une espèce de sphère. « Fais voir, dit le Tout-Puissant, qui naturellement connaissait déjà tout du projet mais faisait semblant de l'ignorer et simulait la curiosité afin que ses meilleurs architectes en ressentissent un plus grand plaisir. Le plan était très précis et portait toutes les cotes souhaitables. « Voyons, qu'est-ce que cela peut bien être ?» dit le créateur poursuivant sa feinte diplomatique. « On dirait une planète. Mais nous en avons déjà construit des milliards et des milliards. Faut-il vraiment en faire encore une ?» Et de dimensions aussi restreintes de surcroît. Il s'agit en effet d'une petite planète, confirma l'ange architecte, mais contrairement aux autres milliards de planètes, celle-ci présente des caractéristiques particulières. Et il expliqua comment ils avaient pensé à la faire tourner autour d'une étoile, à une distance telle qu'elle en recevrait de la chaleur, mais pas trop. Et il énuméra les éléments du devis avec leur quantité respective et leur prix de revient. Dans quel but tout cela ? Eh bien, toutes ces conditions préalables étant réalisées, il se produirait sur ce globe minuscule un phénomène très curieux et amusant, la vie. Il était évident que le créateur n'avait pas besoin d'explications complémentaires, il en savait plus long à lui tout seul que tous les anges architectes, anges contremaîtres et anges maçons rassemblés. Il sourit. L'idée de cette petite boule suspendue dans l'immensité des espaces, portant une multitude d'êtres qui naîtraient, croîtraient, multiplieraient et mourraient, lui semblait plutôt piquante. Naturellement, parce que même si ce projet avait été élaboré par l'esprit d'Odnon et ses collaborateurs, en fin de compte, il provenait toujours de lui, origine première de toute chose. Devant l'accueil bienveillant, l'ange architecte prit de l'assurance et lança un coup de sifflet strident qui fit accourir sur le champ des milliers, mais que dis-je, des milliers, des centaines de milliers et peut-être des millions d'autres esprits. À cette vue, le créateur fut effrayé sur le moment, tant qu'il ne s'agissait que d'un solliciteur. Bon, mais si chacun de ceux qui venaient d'arriver avait à lui soumettre un projet particulier, avec les explications adéquates, cela durerait des siècles. Toutefois, dans son extraordinaire bonté, il se prépara à supporter l'épreuve. Les casse-pieds sont une plaie éternelle. Il soupira seulement. Oh non, le rassura, il n'avait rien à craindre, tous ces gens n'étaient que des dessinateurs. Le comité exécutif de la nouvelle planète les avait chargés de réaliser les maquettes des innombrables espèces d'êtres vivants, de plantes et d'animaux nécessaires à une bonne réussite. Oh non, et ses camarades n'avaient pas perdu de temps. Loin de se présenter avec un vague plan abstrait, ils avaient prévu les moindres détails. Et peut-être avaient-ils pensé dans le fond de leur cœur mettre le Très-Haut devant le fait accompli avec le fruit d'un travail précis. Mais ce n'était pas la peine. Ce qui s'était annoncé comme un défilé massacrant de quémandeurs devint au contraire pour le créateur une soirée plaisante et brillante. Non seulement il examina avec intérêt, sinon tout, du moins la plus grande partie des dessins, des plantes et des animaux, mais il participa volontiers aux discussions relatives qui s'élevaient souvent entre leurs auteurs. Chaque dessinateur était naturellement désireux de voir son propre travail approuvé et éventuellement loué. La diversité des tempéraments était symptomatique. Comme partout ailleurs, dans n'importe quel endroit de l'univers, il y avait l'immense masse des humbles qui avaient trimé dur pour créer la base solide, pourrions-nous dire, de la nature vivante, maquettiste à l'imagination souvent limitée, mais d'une technique scrupuleuse et qui avait dessiné un par un tous les micro-organismes, les mousses, les lichens, les insectes, relevant de l'administration courante, en somme, les êtres de moindre importance. Et puis il y avait les artistes de talent, les fantaisistes, esbroufeurs qui tenaient à briller et à se faire remarquer, ce qui les avait poussés à concevoir des créatures bizarres, compliquées, fantastiques et quelquefois aberrantes. Certaines d'entre elles, par exemple, des dragons qui avaient plus de 10 têtes, durent être refusées, jetées à la corbeille. Les dessins étaient faits sur un papier de luxe en couleur et grandeur nature, ce qui mettait en nette infériorité les maquettistes des organismes aux dimensions plus modestes. Les auteurs des bactéries, virus et autres passaient presque inaperçus malgré leur mérite incontestable. Évidemment, ils présentaient des petits bouts de papier de la dimension d'un timbre-poste qui portaient des signes imperceptibles que notre œil humain n'aurait pu distinguer, mais le leur, si. Il y avait entre autres l'inventeur des tardigrades, qui allait et venait avec son minuscule album de croquis grand comme l'œil d'un moustique, s'attendant à ce que les autres apprécient la grâce de ces futurs animalcules dont la silhouette évoquait vaguement de petits oursons. Mais personne ne lui accordait la moindre attention. Heureusement que le Tout-Puissant, à qui rien n'échappait, lui fit un petit clin d'œil qui valait une poignée de main enthousiaste, ce qui lui réchauffa le cœur. Une vive altercation s'éleva entre l'auteur du projet du chameau et son collègue qui avait imaginé le dromadaire, chacun prétendant avoir eu le premier l'idée de la bosse, comme si c'était une trouvaille géniale. Chameau et dromadaire laissèrent l'assistance plutôt froide. La plupart les jugèrent de très mauvais goût. Ils furent acceptés, mais de justesse. La proposition des dinosaures souleva un tollé général. Un groupe hardi d'esprits ambitieux défila en parade, brandissant sur de très hauts chevalets les gigantesques dessins de ces puissantes créatures. L'exhibition fit indiscutablement une certaine sensation. Tout de même, les énormes animaux étaient exagérés. Malgré leur taille et leur corpulence, il était peu probable qu'ils survivraient. Pour ne pas chagriner les braves artistes qui avaient mis tout leur talent, le roi de la création concéda toutefois l'exéquatur. Un éclat de rire général et bruyant accueillit le dessin de l'éléphant. La longueur de son nez me semblait mais excessive, mais grotesque même. L'inventeur rétorqua qu'il ne s'agissait pas d'un nez, mais d'un organe très spécial pour lequel il proposait le nom de proboscide ou trompe. Le mot plut, il y eut quelques applaudissements isolés, le Tout-Puissant sourit et l'éléphant lui aussi passa l'épreuve avec succès. Par contre, un succès immédiat et fantastique alla à la baleine. 6 esprits volants soutenaient la planche démesurée avec le portrait du monstre. Il fut d'emblée extrêmement sympathique à tous et souleva une chaleureuse ovation. Mais comment se souvenir de tous les épisodes de cette interminable revue ? Parmi les clous les plus remarquables, nous pouvons citer certains grands papillons aux vives couleurs, le serpent boa, le séquoia, l'archéoptérix, le paon, le chien, la rose et la puce. On s'accorda à l'unanimité pour prédire un long et brillant avenir à ces 3 derniers personnages. Pendant ce temps, au milieu de toute cette foule d'esprits qui se pressaient et se bousculaient autour du Tout-Puissant, assoiffé de louanges, un solitaire allait et venait, un rouleau sous le bras, importun, fâcheux, ô combien assommant. Il avait un visage intelligent, cela oui, on ne pouvait pas le nier, mais une telle opiniâtreté. Une vingtaine de fois au moins, il chercha à se faufiler au premier rang à coups de coude pour attirer l'attention du seigneur, mais sa véhémence orgueilleuse agaçait, et ses collègues, feignant de l'ignorer, le repoussaient en arrière. Mais il fallait autre chose pour le décourager. Et aïe donc, il réussit finalement à parvenir au pied du Créateur, et avant que ses compagnons aient eu le temps de l'en empêcher, il déploya le rouleau, offrant au regard divin le fruit de son talent. Les dessins représentaient un animal dont l'aspect était vraiment désagréable, pour pas dire répugnant, mais qui frappait toutefois parce que totalement différent de tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. D'un côté était représenté le mâle, de l'autre la femelle. Comme beaucoup d'autres bêtes, ils avaient quatre membres, mais du moins en jugé d'après les dessins, ils n'en utilisaient que deux pour marcher. Pas de poils, si ce n'est quelques touffes, ça et là, spécialement sur la tête, comme une crinière. Les deux membres antérieurs pendouillaient sur les côtés d'une façon un peu ridicule. Le museau ressemblait à celui des singes qui avaient déjà été soumis avec succès à l'examen. La silhouette n'était plus fine, harmonieuse et galbée comme celle des oiseaux, des poissons, des coléoptères, mais dégingandée, gauche et dans un certain sens indécise, comme si le dessinateur, au moment critique, s'était senti découragé et fatigué. Le Tout-Puissant jeta un coup d'œil. « Peut pas dire que ce soit bien beau, hein, » observa-t-il en adoucissant par l'amabilité du ton la sévérité de son jugement, « mais peut-être cet animal a-t-il quelque utilité particulière ?»« Oui, oh Seigneur !» confirma l'importun. « Il s'agit, modestie mise à part, d'une invention formidable. Ceci serait l'homme et cela la femme. Indépendamment de l'aspect physique, qui, je l'admets, est discutable, j'ai cherché à les faire de telle façon qu'ils soient, pardonne-moi ma hardiesse, à ta ressemblance au Très-Haut. Ce sera dans toute la création le seul être doué de raison. » L'unique qui pourra se rendre compte de ton existence. L'unique qui saura t'adorer. En ton honneur, il bâtira des temples grandioses. Il livrera des guerres terriblement meurtrières. Aïe, 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 tu veux dire que ce serait un intellectuel, fit le Tout-Puissant. Non, fais-moi confiance, mon fils. Non, pas d'intellectuel. L'univers en est exempt, par chance, jusqu'à présent. Et j'espère qu'il restera tel jusqu'à la fin des millénaires. Je ne nie pas, mon garçon, que ton invention soit ingénieuse, mais... Peux-tu m'assurer de son éventuelle réussite ? Que cet être que tu as imaginé soit doué de qualités exceptionnelles, c'est possible. Mais en juger d'après sa mine, il m'a tout l'air d'être une source d'embêtement à n'en plus finir. Cependant, je dois dire que j'ai pris plaisir à constater ton habileté. Je serais même heureux de te remettre une médaille. Mais je crois prudent que tu renonces à ton projet. Ce type-là, si je lui donnais un tant soit peu de mou... serait bien capable un jour ou l'autre de me manigancer les pires ennuis. Non, non, laissons tomber. » Et il le congédia d'un geste paternel. L'inventeur de l'homme s'en alla en rechignant sous les sourires discrètement narquois de ses confrères, à vouloir trop bien faire. Puis vint le tour de l'auteur du projet des tétranoïdes. La journée avait été mémorable et heureuse, comme toutes les grandes heures faites d'espoir, d'attente, de choses belles sur le point de se produire, mais qui ne sont pas encore, comme toutes les heures de jeunesse. La terre allait naître avec ses merveilles bonnes et cruelles, béatitude et angoisse, amour et mort, le mille-pattes, le chêne, le ver solitaire, l'aigle, l'ichneumon, la gazelle, le rhododendron, le lion... L'important allait et venait encore infatigable et tellement ennuyeux avec son porte-document. Il regardait sans cesse là-haut, quêtant dans la pupille du maître un signe de contre-ordre. Les sujets préférés étaient pourtant tous différents. Faucon et paramécie, armadille et tumbergie, staphylocoque et potocarpe, cyclopide et iguanodon. Jusqu'au moment où la terre fut remplie de créatures adorables et odieuses, douces et sauvages, horribles et insignifiantes, très belles. Un bruissement de fermentation, de palpitations, de gémissements, de ululements et de chants allait naître des forêts et des mers. La nuit descendait. Les dessinateurs, ayant obtenu le suprême accord, s'en étaient allés, satisfaits, qui d'un côté, qui d'un autre. Un peu là, le sublime se retrouva seul dans les immensités qui se peuplaient d'étoiles. Il allait s'endormir en paix. Il sentit qu'on tirait doucement le bord de son manteau. Il ouvrit les yeux, abaissa son regard et vit cet importun qui retournait à la charge. Il avait de nouveau déroulé son dessin et le fixait avec des yeux implorants. L'homme ! Quelle idée folle, mais quel dangereux caprice ! Mais dans le fond, quel jeu fascinant, quelle terrible tentation ! Après tout, peut-être cela en valait-il la peine ? Bah, allez, advienne que pourra. Et puis en période de création, on pouvait bien se montrer optimiste, hein ? Allons, donne-moi ça, dit le Tout-Puissant, saisissant le fatal projet. Et il y apposa sa signature.
Left blue me.
Petites histoires du soir. Anniversaire. Aujourd'hui, 16 octobre, j'ai 58 ans. C'est une chose épouvantable. Vous aussi, un jour, vous l'éprouverez. En soi, ce serait un anniversaire comme tant d'autres, tout au plus, peut-être un peu plus grave que les précédents à cause du chiffre. Seulement voilà, mon père est mort justement à 58 ans. Et le rapprochement est inévitable. Des comparaisons du même genre me viennent instinctivement à l'esprit quand je visite les grands musées. Et ils provoquent en moi un vague malaise. En bas, sur le cadre, on lit par exemple « Raphaël Sanzio, 1483-1520 ». Alors je calcule et je pense, Raphaël a vécu à peine 37 ans, à mon âge il serait mort depuis 21 ans déjà. Ou bien Michelangelo Anireggi, dit le Caravage, 1569-1609, à peine 40 ans de vie. Moi j'ai déjà bénéficié de 18 ans de plus. Vincent Van Gogh, 1853-1890, 37 ans, comme Raphaël. Amedeo Modigliani, 1884-1920, 36 ans seulement. Ben, si j'avais été lui, je serais déjà un cadavre depuis 22 ans. Hein. Ils n'ont pas perdu de temps, ces messieurs. Hein. Ils sont nés, ils ont grandi et rapidement, ils sont partis pour toujours. Quelques saisons leur ont suffi pour conquérir la gloire immortelle. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? C'est pas que je veuille me comparer à ces génies, mais qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? Comparé à l'un d'eux, j'ai déjà eu le privilège de 20 ans supplémentaires. Comparé aux autres, de 10, de 15. Et je reste là à me tourner les pouces. Je regarde autour de moi, j'attends comme si le beau côté de la vie était encore à venir et qu'il n'y eut aucune urgence. Arrivé à ce point, j'éprouve une sensation de précipice sous mes pieds. Le remords du temps gâché. Le vertige du vide et de la vanité. Ce petit jeu numérique dans les salles des grands musées est amer et décourageant. Pourtant, il s'agit en général de personnages de l'Antiquité ou de la légende et dans le fond très éloignés de moi. La confrontation avec son propre père est beaucoup plus forte et troublante. Quand mon père mourut, j'étais encore un petit garçon et je me souviens à grand-peine de lui, peut-être à cause de sa barbe qui naturellement le vieillissait d'une dizaine d'années. Il m'apparaissait comme un homme très âgé, le prototype de la vieillesse. Il me semblait qu'il avait eu une très longue vie. L'idée qu'un jour je pourrais atteindre le même âge était tout à fait invraisemblable. Et me voici à l'affolante échéance qui dans le temps me semblait une fable et qui maintenant que je l'ai atteinte suscite en moi des sentiments opposés. Je désirerais, je le confesse, vivre encore une éternité. Toutefois la prétention de vivre plus longtemps que mon père me semble instinctivement presque illicite. Un manque de respect, une avidité abusive. Tant pis pour moi si en toutes ces années j'ai produit si peu. En somme, tout ce qui me reste, tout ce qui reste devant moi serait un supplément, un privilège immérité. Mais en même temps, je dois reconnaître toutefois que j'éprouve un autre sentiment antithétique. Vous allez rire, mais je ne constate aucune différence appréciable en moi. Ma façon de vivre est toujours la même que lorsque j'avais 30 ans. Il y a sans doute un amoindrissement de la quantité complexe d'énergie que je peux dépenser, mais la disponibilité qualitative est restée la même. Je m'explique. Aujourd'hui, je travaille à peine 4 heures d'affilée, tandis que jadis, je pouvais continuer pendant 8 heures sans effort. Mais je travaille de la même façon. Dans le temps, je faisais quotidiennement 7 à 8 descentes à ski du plateau rouge. Aujourd'hui, je me contente de 3, mais je skie de la même façon. Probablement mieux même. J'ai donc l'absurde et scandaleuse sensation, pourrais-je dire, de ne pas être passé d'une catégorie dans l'autre, que la jeunesse n'est pas encore finie, même si le miroir, la date de naissance, la façon dont me considère mon prochain sont, je le sais très bien, autant de démentis énergiques. De sorte que selon les heures, aujourd'hui 16 octobre 1964, j'oscille entre la constatation résignée que théoriquement du moins mon tour est passé et la confiance du lendemain infini, l'illusion, l'espoir, le terrible espoir.
You want the crops without the plow. You want the rain without the thunder. You want the ocean without the roar of its waters. Can't have the sun without the heat. Nothing that I say hasn't been said before. Nothing that I feel hasn't been felt before. These wounds are so old. These wounds are so old. These wounds are so old. These wounds. You want the crops without the plow. You want the rain without the thunder. You want the ocean without the roar of its waters. Can't have the sun without the heat. So much waste. So much waste. The waste of the city in the city lights, weighing so heavy on our minds. Nothing is right, and there's so much wrong. Only we can change ourselves. The road is so long. These wounds are so old. These wounds are so old. These wounds are so old. These wounds. You want the crops without the plow. You want the rain without the thunder. You want the ocean without the roar of its waters. Can't have the sun without the heat. You want the rain without the thunder. You want the ocean without the roar of its waters. Can't have the sun without the heat.
Les bosses dans le jardin. Quand la nuit est tombée, j'aime me promener dans le jardin. Ne croyez pas que je sois riche, hein. Un jardin comme le mien, vous en avez tous. Et plus tard, vous comprendrez pourquoi. Dans l'obscurité, mais ce n'est pourtant pas complètement l'obscurité parce qu'une douce réverbération provient des fenêtres allumées de la maison. Dans l'obscurité, je marche sur la pelouse. Mes chaussures enfoncent un peu dans l'herbe et ce faisant, je pense et tout en pensant, je lève les yeux pour regarder si le ciel est serein. S'il y a des étoiles, je les observe en me posant des tas de questions. Pourtant, certaines nuits, je ne me pose pas de questions. Les étoiles sont là-haut, au-dessus de moi, parfaitement stupides, et ne me disent rien. J'étais un petit garçon lorsque, au cours de ma promenade nocturne, je butais sur un obstacle. Ne voyant pas ce que c'était, j'allumais une allumette. Sur la surface lisse de la pelouse, il y avait, chose étrange, une protubérance. Peut-être le jardinier aurait fait quelque chose, pensais-je. Je lui demanderai demain matin. Le lendemain, j'appelai le jardinier. Il se nommait Giacomo. Je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait dans le jardin? Il y a comme une bosse sur la pelouse. Hier soir, j'y ai buté et ce matin, je l'ai vue comme le jour se lever. C'est une bosse oblongue et étroite. Elle ressemble à un tumulus mortuaire. Veux-tu me dire ce que cela signifie ?» « Elle ne ressemble pas seulement à un tumulus mortuaire, monsieur, » dit le jardinier Giacomo. « C'en est vraiment un. Parce qu'hier, monsieur, un de vos amis est mort. » Et c'était vrai. Mon meilleur ami, Sandro Bartoli, était mort en montagne, le crâne fracassé. Il avait 21 ans. « Tu veux dire que mon ami a été enseveli ici, » dis-je à Giacomo. « Ah non, répondit-il, votre ami, monsieur Bartoli, il s'exprimait ainsi parce qu'il était de la vieille génération et pour cette raison encore respectueux, a été enseveli au pied de la montagne, que vous savez. Mais ici, dans le jardin, la pelouse s'est soulevée toute seule, parce que c'est votre jardin, monsieur, et tout ce qui vous arrivera dans la vie aura sa répercussion ici. » « Allons, allons, je t'en prie, ce sont d'absurdes superstitions, lui dis-je. Tu vas me faire le plaisir d'aplanir cette bosse. » « Je ne peux pas, monsieur, répondit-il, et des milliers de jardiniers comme moi ne réussiraient pas davantage à aplanir cette bosse. » Après cela, on ne fit rien et la bosse demeura. Je continuai le soir, lorsque la nuit était tombée, à me promener dans le jardin et de temps à autre, il m'arrivait de buter sur la bosse, mais guère souvent car le jardin était assez grand. C'est une bosse large de 70 cm et longue d'1,90 m. L'herbe y poussait, elle devait s'élever d'environ 25 cm au-dessus du niveau du pré. Naturellement, chaque fois que je butais dedans, je pensais à lui, au cher ami perdu. Mais peut-être était-ce l'inverse. Peut-être allais-je buter sur la bosse justement parce que ce moment-là, j'étais en train de penser à mon ami. Ces histoires-là sont plutôt difficiles à comprendre, à éclaircir. Par exemple, il pouvait se passer 2 ou 3 mois sans que je rencontre dans l'obscurité pendant ma promenade nocturne ce petit relief. Dans ce cas, son souvenir me revenait alors. Je m'arrêtais et dans le silence de la nuit, à voix haute, je demandais « Tu dors ?» Mais il ne répondait pas. Il dormait effectivement, mais loin d'ici, sous les falaises, dans un cimetière de montagne, et au fur et à mesure que les années passaient, personne ne se souvenait plus de lui, personne ne lui portait de fleurs. Toutefois, de longues années passèrent, et voilà qu'un soir, au cours de ma promenade, juste à l'angle opposé du jardin, je butais dans une autre bosse. Il s'en fallut de peu que je ne m'étale de tout mon long. Il était minuit passé, tout le monde était allé dormir, mais mon irritation était telle que j'appelai « Giacomo, Giacomo !» pour le réveiller. Une fenêtre s'alluma, Giacomo se pencha dehors. « Qu'est-ce que c'est encore que cette bosse » criai-je. « Tu as bêché par là ?»« Ah non, monsieur. Mais entre-temps, un de vos collègues que vous aimiez bien est parti, dit-il. Il s'appelait Cornalie. » Quelque temps plus tard, je trébuchais sur une troisième bosse, et bien qu'il fût déjà nuit noire, j'appelais aussi cette fois Giacomo, qui était en train de dormir. Je savais très bien désormais ce que signifiait cette bosse, mais je n'avais pas reçu de mauvaises nouvelles ce jour-là, et j'étais anxieux de savoir. Giacomo, toujours flegmatique, apparut à la fenêtre. « Qui est-ce ? » demandai-je. « Quelqu'un est mort ?»« Eh oui, monsieur, » dit-il. « Il s'appelait Giuseppe Patane. » Et puis quelques années passèrent à peu près tranquilles. Mais à un certain moment, la multiplication des bosses dans la pelouse du jardin reprit de plus belle. Il y en avait des petites, mais il en était poussé aussi de gigantesques qu'on ne pouvait pas enjamber d'un pas. Et il fallait monter d'un côté pour redescendre de l'autre, comme si c'était des petites collines. Il y en a eu 2 très importantes à bref intervalle, l'une de l'autre, et point n'était besoin de demander à Giacomo ce qui était arrivé. Là-dessous, dans ces 2 tumuli hauts comme des bisons, étaient enfermés de très chers moments de ma vie, cruellement terminés. Pour cette raison, chaque fois que dans l'obscurité je butais contre ces 2 terribles monticules, toutes sortes de souvenirs douloureux se ravivaient en moi et je restais là, comme un enfant effrayé, appelant mes amis un par un. J'appelais Cornalie, Patane, Rebizzi, Lo Longanesi, Mori. J'appelais tous ceux qui avaient grandi avec moi, qui pendant de longues années avaient travaillé avec moi. Et puis, à voix encore plus haute, Negro, Vergani, comme si je faisais l'appel. Mais personne ne répondait. Peu à peu, donc, mon jardin, qui jadis était lisse et d'accès facile, s'est transformé en champ de bataille. Il y a toujours de l'herbe, certes, mais le pré monte et descend dans un labyrinthe de monticules, de bosses, de protubérances, de reliefs. Et chacune de ces excroissances correspond à un nom. Chaque nom correspond à un ami. Chaque ami correspond à une tombe lointaine et à un vide en moi. Et puis cet été, il en est apparu une si haute que lorsque j'en fus tout près, son profil me masqua la vue des étoiles. Elle était grande comme un éléphant, comme une petite maison. C'était épouvantable pour y monter. Une véritable escalade. Il fallait l'éviter et en faire le tour. Ce jour-là, aucune mauvaise nouvelle ne m'était parvenue et c'est pourquoi cette nouveauté dans le jardin m'étonnait beaucoup. Mais cette fois aussi, je suis tout de suite. C'était le plus cher ami de ma jeunesse qui était parti. Entre lui et moi, il y avait eu tant de vérité. Nous avions découvert ensemble le monde, la vie et les plus belles choses. Ensemble, nous avions exploré la poésie, les peintures, la musique, la montagne. Et il était logique que pour contenir tout ce matériel infini comme résumé et synthétisé dans des termes les plus brefs, il fallait une vraie petite montagne. À ce moment, j'eus un mouvement de rébellion. Non, Ça ne pouvait pas être, me dis-je épouvanté. Et une fois encore, j'appelai les amis par leur nom. Cornali, Patane, Rebizzi, Longanesi, Mori, Negro, Vergani, Segala, Orlandi, Ciarelli, Brambilla. Arrivé à ce point, il y eut une sorte de souffle dans ma nuit qui me répondait « oui ». Je jurerais qu'une sorte de voix me disait « oui ». Une voix qui venait d'un autre monde, mais peut-être était-ce seulement la voix d'un oiseau de nuit, car mon jardin plaît au nocturne. Maintenant, n'allez pas me dire, je vous prie, pourquoi rabâchez-vous des histoires aussi tristes, la vie est déjà si brève et difficile en soi qu'il est idiot de se l'empoisonner de propos délibérés. Après tout, ces tristesses ne nous regardent pas, elles ne concernent que toi, seulement toi. Je vous réponds non, hélas. Elles vous regardent aussi. Il serait bon, je le sais, qu'elle ne vous regarde pas parce que cette histoire des bosses dans la pelouse arrive à tout le monde. Et chacun de nous, je m'explique enfin, est propriétaire d'un jardin où se produisent ces phénomènes douloureux. C'est une vieille histoire qui se répète depuis le début des siècles et qui se répétera pour vous aussi. Et ce n'est pas une petite parabole littéraire. Les choses sont bel et bien ainsi. Je me demande évidemment si dans un jardin quelconque surgira un jour une bosse qui me concernera. Oh, juste une petite bosse de troisième ordre, à peine une ondulation de la pelouse que l'on n'arrivera même pas à voir quand le soleil est au zénith. Quoi qu'il en soit, il y aura une personne au monde, au moins une, qui y butera. Il peut se faire qu'à cause de mon fichu caractère, je meure solitaire comme un chien au fond d'un vieux corridor désert. Et pourtant, une personne ce soir-là butera sur la petite bosse poussée dans son jardin et butera aussi la nuit suivante. Et chaque fois, elle pensera, excusez mon illusion, avec une nuance de regret à un certain type qui s'appelait Dino Buzzati.
River where I
Vous venez d'entendre trois nouvelles de Dino Buzzati, toujours tirées du livre Le Cas, en vente dans toutes les bonnes librairies et en accès libre dans toutes les bonnes bibliothèques. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux autres lectures. Portez-vous bien et à bientôt.